Bienvenue au Podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. Le Podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, plateforme web, application mobile ou web, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le Podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. L'épisode d'aujourd'hui est la suite de ma discussion avec Dominique Gagnon de Connect & Go, donc de l'épisode précédent. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Dominique, eh bien, c'est tout un entrepreneur de start-up qui est présentement en train de frapper un réel coup de circuit avec son entreprise actuelle, alors qu'il était au bord du gouffre durant la pandémie. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, nous vous invitons à l'instant à l'écouter avant d'entendre la suite, donc le présent épisode. Dans l'épisode présent, nous allons entre autres discuter de levée de fonds, de l'importance de l'équilibre entre l'entrepreneur et l'intégrateur, et nous allons également discuter d'intelligence artificielle de manière appliquée, donc d'avoir une vraie valeur ajoutée pour ses clients et de monétiser le tout. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Vous avez fait une autre levée de fonds par la suite pour, je pense, aller encore plus vite, si je me trompe pas.
Ouais, ben on a levé, si je prends le total depuis la première, le 5, on l'a dit, on faudrait le faire disparaître idéalement. Parce qu'on l'a pas utilisé pour du produit, on l'a pas utilisé pour la tech, on l'a utilisé pour sauver. Fait que le premier 5 qui devait servir à bâtir un produit, une équipe de commercialisation, etc., n'a pas servi à ça. Sincèrement, a servi peut-être 20% à ça au maximum. Puis on aurait probablement 3 podcasts à faire. On a aussi acheté une compagnie, nous autres, juste en événementiel, juste avant la pandémie. J'ai payé un petit peu plus qu'1,7 million pour l'acheter. Je l'ai revendu à son propriétaire 100 000. Fait que, tu sais, quand on parle de... Je pouvais plus rien faire avec. Fait que j'étais comme, OK, tu sais. Puis encore une fois, la décision de la revendre 100 000 quand tu as payé 1,7 million au même gars, quelques mois après, c'est... OK, je peux rien faire avec, puis l'entretenir va me coûter de l'argent, puis il y avait du staff dans cette compagnie-là. Fait que, tu sais, 5 millions, ce que j'ai compris, ça disparaît vite, 1,7 million qui est disparu là, des frais d'avocat pour faire la transaction, mais 1,2 million, là, il te reste 3. Brûler un au départ pour commencer le pivot, embaucher beaucoup trop de monde, les mises à pied, les packages. Grosso modo, tu te réveilles là à peu près en... On a le vent en 2018, fin 2018, puis fin 2019, tu te réveilles, puis tu dis, wow, OK, on n'a plus beaucoup de liquidité. Donc, par la suite, évidemment, on fait notre premier million en 2020, de l'enthousiasme dans le marché. On sent qu'on a une bonne stratégie. Et là, on se rend compte en 2022, on arrive à 3 millions de revenus à ce moment-là, mais des discussions quand même assez intéressantes. On commence à faire des gros moves. T'sais, on va chercher notre VP Sales, Tara, qui est aux États-Unis. C'est l'ancienne VP Sales du plus gros joueur de l'industrie, Accesso, qui vaut un peu plus qu'un demi-milliard. On va la chercher... à rentrer chez nous. On est allé chercher le former CMO de San Diego Zoo dans notre équipe de vente, l'ex-directrice de Six Flags dans notre équipe de vente. On commence à être reconnu. C'est un secteur d'activité. Tout le monde nous avait dit, pense pas que vous allez réussir avant 5 ans à pénétrer le marché. Après 2 ans, c'est comme on est connu dans le marché. Les gens commencent à savoir on est qui parce qu'on était tellement présent durant la pandémie. Et c'est là qu'on s'est dit, OK, ce qu'on a décidé de développer comme plateforme, c'est très ambitieux. T'sais, c'est un ERP. Il y a personne qui s'attaque à ça. On a parlé juste dans le dernier mois, puis ça, c'était intéressant, à deux startups qui ont essayé de faire ce qu'on fait en Europe. Puis ils nous ont appelé pour dire, hey, en fin de compte, on va reculer. On va devenir un API first. Puis si vous voulez vous intégrer à nous, fait qu'ils vont se focusser sur un truc. Mais nous, quand on rentre dans un parc d'attractions, pour te donner une idée, on remplace 12 solutions. On est la billetterie sur place, donc le POS sur place. On est la billetterie en ligne. On est le système de restauration. On est le système de boutique. On est le CRM, on est le marketing automation, on est l'engin de paiement, on est le système de contrôle d'accès, on a un système de big data et de reporting complet relié à ça. On a une technologie de virtual wallet où chaque achat de billet crée un profil à l'utilisateur sur lequel il peut recharger. On gère les billets de saison, on gère tout. Et on gère le paiement. Donc, nous, on a décidé de devenir aussi une compagnie de paiement. Quand on faisait 2 millions de chiffres d'affaires, on est devenu ce qu'on appelle un PayFac. Donc, ça veut dire que quand tu passes chez Connect & Go, tu utilises Connect Payment. C'est la même tech que Lightspeed. Lightspeed, on fait ça, je pense qu'il était rendu à 30, 40, 50 millions de revenus. Nous, on l'a fait à 2 millions. Aujourd'hui, par contre, ça commence à être payant parce que on a toute notre infra de paiement. C'est nous qui gère le cashback, le transactionnel. Par contre, si mon système y plante, le parc n'ouvre plus. Il n'opère plus. C'est pour ça que j'ai pas de churn. J'ai zéro churn. J'ai du reoccurring, des contrats de 3 à 5 ans, mais notre LTV, on l'estime à 10 à 15 ans minimum. À chaque fois qu'on va chercher un client, là, je pense que tu as déjà dit c'était quoi le LTV, donc la durée de vie d'un client. En fait, on dit 10 à 15 ans, c'est peut-être 20, on le sait pas. Mais ce qu'on voit, c'est que les systèmes qu'on remplace étaient là depuis 15 ans. Mais on s'entend, c'est complètement débile de développer un ERP en pleine pandémie, plus de cash. Mais c'est pour ça qu'on a relevé, parce que l'ambition que ça demandait, on a acheté deux compagnies qui font de la photo vidéo sur des rides durant la pandémie. Fait qu'on fait aussi de la capture de vidéos puis de photos sur des rides qu'on revend. Donc, on a vraiment créé un écosystème technologique complet. Puis nous, notre pitch, quand on arrive dans un parc d'attractions, c'est souvent des systèmes qui se parlent pas. C'est des systèmes on-premise. Ils n'ont aucun data. Ils savent pas qui revient, etc. Nous, on implante une plateforme qui va, grosso modo, gérer l'entièreté du parc. Mais ça demande beaucoup de fonds. Fait qu'on a relevé un peu plus que 15 millions durant cette période-là, ce qui est beaucoup de capitaux, mais pas tant que ça quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis puis qu'on regarde certains compétiteurs. Ça reste qu'on est très capital efficient avec ça. Puis on va arriver à 10 millions de revenus récurrents, mais nous, on veut continuer à doubler. Donc, on parle de passer de 10 à 18, de 18 à 30. C'est ça le type d'ambition qu'on a. Fait que définitivement, ça prend accès à de l'argent en ce moment-là.
Puis je trouve intéressant l'aspect. On parle de 15 millions, ça a l'air beaucoup, mais si on se compare à le marché des États-Unis au niveau des VCs, c'est du pocket change. Honnêtement, d'avoir été capable en si peu de temps de développer une solution ERP au complet, de réussir à l'implanter chez des clients, à confirmer des revenus puis à scaler, même le côté fournisseur là au niveau du système de paiement, pour connaître la tech de mon côté, honnêtement, vous avez fait un miracle en échelle de temps, dans une si courte échelle de temps, puis avec, je dirais pas nécessairement si peu d'argent, mais si on se compare avec la capacité des fois des VC aux États-Unis, en le faire en bas de 20 millions, là, c'est honnêtement vraiment impressionnant. Là. Vous avez exécuté comme des champions. Là. Bravo, c'est vraiment impressionant. Là.
Ouais, moi, bizarrement, moi, je trouve ça lent. Fait que, tu sais, je pense que mon plus grand défaut, je suis impatient. Fait que, tu sais, là, je suis attaqué mon équipe d'engineering vont m'envoyer le podcast en disant « T'as-tu entendu ce qu'il a dit? » Tu sais, on a fait ça vite parce qu'évidemment, moi, je dis toujours que je fais de l'insomnie parce que j'ai l'impression que je dois faire un marathon à la vitesse d'un sprint. Fait que, tu sais, je dis, moi, le feeling, là, tu sais, l'analogie que je fais, je dis, ouais, je sais que c'est un marathon, ce qu'il faut faire. Mais moi, j'ai tout le temps du monde que je vois en arrière de moi en train de courir crissement vite. Puis je dis, faut courir plus vite. Ce qui vient avec des dangers. J'ai appris à prendre plus de temps, etc. Mais encore une fois, je pense qu'il nous a aidé à le bâtir si vite. C'est tous nos concurrents, c'est des systèmes on-premise. Aujourd'hui, les nouvelles technologies, l'aspect d'avoir le cloud, etc., nous a amené des opportunités. Parce qu'en plus d'avoir plusieurs clients, on a des clients en France. Il a fallu refaire tout le système de taxation parce qu'en France, c'est pas taxe excluse, c'est taxe incluse. Donc, quand tu as un système transactionnel, il faut tout que tu refasses ton engin. On a des clients au Qatar. On a des clients aux États-Unis. On a mis le système en arabe. On a le système en français, en anglais. Donc, ça a amené tout ça. Mais on est très efficace, je dirais, effectivement, là, tu sais, d'un point de vue ingénierie. Mais on vit aussi l'aspect d'avoir été un peu trop vite au départ. Pour réussir à faire ça, il a fallu utiliser des tech stacks un peu plus old school comme du PHP, qui aujourd'hui, c'est dur d'embaucher des bons devs en PHP. Tu sais, des très très bons, il y en a. C'est pas la plupart des devs en PHP sont super bons. Ils ont une belle histoire, mais ils ont commencé à triper sur d'autres tech stacks. Ça le tente moins. Fait que tu vois, ça c'est un des défis là. Tu sais, après 4 ans avoir développé la plateforme, là on parle à la blague de la redévelopper, mais commence à être plus microservice. C'est un peu plus monolithique. Dans le passé, donc il y a beaucoup de travail au niveau du produit, mais aussi le défi d'être un ERP, c'est que parfois tu répares un truc à gauche, puis ça pète un truc à droite, puis tu as l'impression qu'il n'y a pas de lien entre les deux, mais il y en a. Donc évidemment, beaucoup d'assurance qualité, beaucoup d'investissement sur ces niveaux-là, puis on sait que la vitesse à laquelle on va, c'est un haut niveau de risque. Pour moi, c'est pareil que rouler 250 sur l'autoroute. En Allemagne, tu as le droit de rouler à la vitesse que tu veux, il semblerait que ça cause pas plus d'accidents, mais si ça en cause un, ça fait mal. Donc on sait très bien aussi qu'il faut faire attention parce qu'on est à l'affût. La vitesse qu'on va, c'est dangereux. Mais c'est quand même ça qu'on a envie de vivre comme trip en ce moment.
Et t'as pas le choix de vivre ce que tu disais, de faire un marathon à la vitesse d'un sprint, parce que là, t'as des gros joueurs qui ont beaucoup de revenus, qui peuvent investir 2, 3, 4, 5 fois plus que toi. Mais la problématique là-dedans, au bout de la ligne, c'est que les éléments que vous gérez dans les parcs d'attractions, moindrement que ça plante, ça l'arrête, ça bloque. Là, on parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Là. Des fois, le téléphone doit sonner, là, puis pour une erreur probablement complètement stupide, c'est ça peut recevoir des téléphones des fois qui sont pas le fun. Là.
Ah, c'est pas... on est loin d'être parfait. Hein. Tu sais, il y a l'image publique qui donne l'impression que tout va bien. La réalité, on a eu des enjeux d'assurance qualité. On a déjà eu un parc pendant 10 minutes qui était pas capable d'ouvrir parce qu'il y avait des défis avec le système. On vit ça. Ce qu'on a aussi, c'est, je pense, la meilleure équipe au monde de Customer Success. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on a vu. Contrairement aux grands joueurs, old school de l'industrie, on a de l'empathie et de la transparence. Quand ça plante, on fait pas semblant que ça n'a pas planté. On est très transparent. Tu vois, j'ai écrit à une cliente hier, un très, très grand groupe français, pour m'excuser. On a 3 semaines de retard sur la livraison d'un feature très important pour eux. J'ai été transparent. J'ai dit la seule raison pour laquelle on a ce retard-là, c'est que j'ai pris la décision d'arrêter les sprints pour focusser sur l'assurance qualité parce qu'on a trop de bugs P1, P2. Donc, j'ai dit, on va malheureusement pas livrer ce qu'on t'avait promis dans les délais, mais je pense qu'aujourd'hui, la bonne décision, c'était la stabilité. Donc, ça a été la décision qui a été prise à ce moment-là. Donc, oui, c'est rock'n'roll. C'est un plus et un moins, mais on réussit, je pense, en étant vrai. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai fini par apprendre, à garder la confiance des gens. Ils ont envie de travailler avec nous. Les commentaires qu'on a sont vraiment le fun. Donc, je pense que ça, c'est game changer. Fait que, tu sais, notre équipe de Customer Success, pour moi, c'est un peu comme dans l'événementiel. C'est eux qui tiennent les fils pendant qu'on essaye de construire la maison en arrière. Puis ça, vraiment, on a embauché du très grand talent. Puis c'est quelque chose qu'on n'avait pas en agence, on appelait ça des chargés de projet, là, mais c'est vraiment une bonne équipe de customer success dans le produit, c'est nécessaire.
Et je trouve intéressant l'enjeu que vous avez de quel langage on aurait dû prendre pour développer la solution technologique. On a un épisode numéro 5, là, qui permet d'essayer d'aider un peu les gens d'aiguiller sur cette fameuse question-là, puis... Dans les différents critères de sélection, c'est la main-d'œuvre disponible, elle est où aujourd'hui, puis elle est où dans le futur aussi en avant. Fait que si vous nous écoutez aujourd'hui, puis vous n'avez pas encore commencé à développer ou vous pensez faire une réécriture, allez écouter cet épisode-là. Vous allez avoir probablement des morceaux de robots là, qui parlent probablement à Dominique aujourd'hui dans son quotidien. Là. Elle est où la main-d'œuvre aujourd'hui ou en avant pour être certain qu'on est capable d'en avoir puis que ce soit scalable à travers le temps. Là.
Ah, puis ça va tellement vite. Puis effectivement, tu parles de est-ce que c'était une erreur? Je pense pas. Parce que si on l'avait pas fait dans ce code-là, puis c'était évidemment le code que maîtrisait, tu sais, principalement aussi, tu sais, certains très, très devs qu'on avait encore très, très fort dans l'équipe. Je pense qu'encore, il y a des décisions qui sont bonnes sur le moment, mais que tu dois être conscient qu'elles vont coûter cher dans le futur. Mais si on avait dit, on va faire ça sur le meilleur tech stack du monde, on aurait peut-être pas lancé de produit puis on serait peut-être pas là pour se parler. Donc, pour moi aussi, c'est de pivoter. C'est d'être capable de faire des moves. En ce moment, on travaille une partie de microservices, mais on dit, OK, on va garder le core comme ça, mais on va commencer à construire autour pour être capable aussi de sous-traiter. On a commencé à utiliser certaines équipes de dev au Vietnam qui sont hallucinantes, mais le problème en ce moment, c'est qu'un dev qui rentre chez Connect & Go, c'est 3 à 6 mois avant qu'il commence à performer. Parce que c'est tellement un logiciel grand, complexe, avec des risques, que ça prend énormément de temps. Donc là, mon VP Engineering, c'est comment je réduis ça de 3 à 6 mois à 1 mois. Parce que si après 1 mois, tu commences à coder, c'est game changer pour nous. Donc, on travaille sur ça. Mais il y a souvent des décisions, puis on s'en parle un peu. C'est tellement facile de dire, ah, j'aurais dû faire ça. Non, sur le moment, c'était la décision qu'on devait prendre. On l'a pris. Est-ce que c'est la meilleure décision? Non, c'était la meilleure décision à ce moment-là avec les informations qu'on avait puis le temps qu'on avait. Mais aujourd'hui, oui, ça nous cause certains maux de tête.
Puis, je sais que tu dis que les décisions que j'ai prises, aujourd'hui, je les regrette pas parce que c'était la meilleure chose à faire dans le temps, mais aujourd'hui, tu regardes certains éléments ou certains mouvements que tu as fait dans l'entreprise, puis il y a probablement des choses que, à savoir aujourd'hui que tu sais, tu aurais pris une décision différente ou une direction différente. Qu'est-ce que tu pourrais partager comme expérience aux gens là, de notre auditoire pour essayer de les aider eux, à peut-être prendre un chemin différent ou une décision différente sur certains enjeux? Je pense qu'il y a certains apprentissages qui peuvent être intéressants pour les gens qui nous écoutent, là.
Le principal, je dirais que c'est plus sur le passé que sur le présent. Fait que quand je parle du passé, je parle peut-être plus les premières années de Connect & Go, mais aussi dans Piranha, c'est de s'entourer de gens différents. J'ai un duo exceptionnel. Là, si vous avez pas lu Rocket Fuel, dans lequel on présente le visionnaire et l'intégrateur, qui sont 2 profils dans une entreprise, moi, j'ai le duo parfait chez Connect & Go. Mon COO, en fait, est la seule personne qui relève de moi. Parce que j'ai aussi fini par accepter et comprendre que je suis un très mauvais gestionnaire. Des one-on-one, je suis pas bon pour faire ça. C'est pas quelque chose non plus dans lequel j'adore la relation humaine, mais structurer un one-on-one, suivre des OKRs, c'est pas moi. C'est pas ma personnalité, c'est pas ça que je suis. FP, c'est une machine de guerre à faire ça. Donc, j'ai FP qui est sous moi. Et ensuite, l'équipe de direction est sous FP. Je parle à FP 4 à 5 fois par jour. C'est la première personne que je vais appeler après le podcast. Pour prendre un petit peu de nouvelles, qu'est-ce qui se passe, prendre le pouls. On revient de Toronto, on est ensemble. Aussi, on pitch aux investisseurs ensemble. Dès que les investisseurs commencent à poser des questions sur les chiffres, des questions pointues, je regarde FP puis il part. Parce que moi, des fois, je vais m'enthousiasmer puis je vais peut-être pas dire le bon chiffre. Puis je vais peut-être, ça va être plus difficile. J'ai appris ça. Puis c'est game changer. Puis avant, on était deux profils, moi puis Anthony. Deux profils sales. Deux profils croissance. Ben, sincèrement, on a fait mal à bien des humains. Parce que on était aveuglé par la croissance, puis en termes de culture, on n'était pas super bon. Pour être très très transparent, puis vous pouvez le voir là, sur Glassdoor, il y a l'avant et l'après, c'est game changer. On n'a que des 5 en ce moment, une culture pas de churn. Dans le passé, c'était pas facile. Bon, ça aussi dans la culture événementielle. Fait que de s'entourer puis de comprendre ses faiblesses. Puis moi, je dis aux gens, arrêtez d'essayer de devenir bon dans ce que vous êtes pas bon. Puis ça, c'est peut-être pour les neurodivergents. Je suis pas neurotypique, fait que je peux pas le dire pour les neurotypiques. Mais quand tu as un trouble d'attention et d'hyperactivité, tu seras jamais bon dans ce que tu n'es pas bon parce que ça t'intéresse pas et tu n'es pas capable de l'apprendre. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'efforts à devenir très, très bons dans ce qu'ils sont pas bons. Puis selon moi, c'est de l'énergie perdue. Moi, j'ai décidé, je suis bon dans quoi? Je suis bon dans les ventes, je suis bon dans la commercialisation, je suis bon dans l'instinct, je suis bon dans le produit parce que j'adore l'innovation. Je suis pas bon dans la gestion. C'est pas moi le gestionnaire day-to-day de la compagnie. Puis je pense pas non plus que je vais être un bon président d'entreprise rendu à une prochaine phase. Je pense que je vais faire partie des gens qui vont souhaiter se retirer un peu et mettre quelqu'un à la place. G-Soft l'a bien fait, entre autres, de Simon de prendre un petit peu un pas de recul puis d'amener un Martin, là, tu sais, profil très gestionnaire en place. Moi, c'est quelque chose avec lequel aussi il faut que notre ego finisse par disparaître. Puis c'est quoi le mieux pour la business? Le mieux pour la business, c'est probablement pas Dominique à 50 millions de revenus parce que ça va être encore plus des processus, plus lourd pour moi possiblement de gérer ça. Donc, je dirais que la plus grosse erreur, c'est de mal s'entourer, de pas embaucher des professionnels, embaucher des gens qui coûtent moins cher. Les gens chez nous, oui, 150, 200, 250 000 par année. En plus de devenir actionnaire, on en a parlé rapidement, j'ai vendu une partie de mon équité à des membres de l'équipe de direction pour qu'il y ait du skin in the game. Ça, vraiment, c'est d'avoir une équipe. C'est la première fois que j'ai vraiment le sentiment d'être dans un sport d'équipe. La plupart du temps, je sentais que mon entrepreneuriat, c'était un sport solitaire. Aujourd'hui, je joue en équipe. Puis je suis capable de faire un podcast comme ça, de recevoir aucun email et d'avoir zéro stress de dire on va échapper une balle parce que je suis pas disponible.
Très impressionnant. Puis cette section-là par rapport au bon duo entre l'entrepreneur qui a l'idée puis l'instinct puis l'intégrateur de l'autre côté, on l'entend souvent en parlant avec des gens à succès. Je suis un grand fervent d'essayer de fournir des outils aux gens pour faire ce cheminement-là dans leur tête. Est-ce que de ton côté, ce serait le livre Rocket Fuel qui a été un peu l'outil à parfaire cette réflexion-là puis mettre ça en application, ou il y a eu autre chose qu'on pourrait fournir à l'auditoire aujourd'hui pour les aider à pousser cette réflexion-là?
Rocket Fuel va vous aider à comprendre puis aussi à vous situer entre les deux profils qui sont assez catégoriques définitivement. À ce moment-là, il y a des livres que je pense 80% des gens qui ont passé à ton podcast ont parlé, qui est From Good to Great, qui te fait aussi rendre compte l'importance de, parfois, on pense que l'entrepreneur à succès, c'est l'excentrique, que c'est la personne qui aime parler fort, etc., ce qui est pas du tout le cas quand on regarde un petit peu plus au niveau statistique. Moi, j'ai fait aussi beaucoup de tests psycho, fait que tu sais, un TE2, etc., qui sont des tests qui permettent de voir ta personnalité, de voir tes angles morts. Puis en fait, Rocket Fuel, ça fait pas si longtemps que je l'ai relu. Ce qui m'a fait l'importance de trouver un CEO, c'était vraiment ces tests-là qui montraient à quel point j'avais des angles morts, à quel point j'avais des faiblesses au niveau opérationnel, mais à quel point j'avais des super pouvoirs que très, très peu de gens ont. Puis ça, dès le moment que je l'ai placé, j'ai dit, j'ai besoin d'un opérateur. J'ai besoin de quelqu'un capable d'opérer. J'ai besoin d'un profil qui est, tu sais, FP, qui est mon CEO aujourd'hui. C'est un ingénieur de base. Donc, un profil très ingénieur aussi dans sa façon de regarder les choses. Tu sais, lui, c'est simple. Il y a du data. Puis mes décisions sont basées sur le data. Après, je pense que FP seul, il serait pas capable d'amener la business où on veut. Puis moi seul, je serais pas capable. Puis c'est là où j'aime le duo. C'est, je pense que lui, peut-être qu'il y a moins ce côté-là instinct, il y a moins ce côté-là feeling, mais d'un autre côté, il est capable de prendre 100% tout ce que j'ai puis de le matérialiser. Fait que définitivement, il y a des bons tests qui peuvent être faits au niveau psycho. Il y en a qui vont faire les tests de couleur, qui sont un petit peu légers pour moi, là. On peut aller beaucoup plus creux avec d'autres tests qui sont disponibles sur le marché. Il y a des firmes qui font ça. Mais après, c'est aussi de regarder ta personnalité. Une fois que tu lis Rocket Fuel, logiquement, tu es capable de savoir si tu es un visionnaire ou un intégrateur. Puis une fois que tu sais ça, ben faut que tu t'entoures, parce qu'il y a aussi beaucoup de CEO intégrateurs. Hein. Il y en a beaucoup qui ont un profil beaucoup plus intégrateur, mais qui vont pas être capables de scaler parce qu'ils ont pas cet aspect-là visionnaire, ils ont pas cet aspect-là un peu éclectique puis un peu fou de vouloir aller plus loin. Fait que je pense que c'est de se connaître qui est le plus important. Voir une psy, ça va faire 10 ans que je vois une psy, tu sais, minimum une fois par mois, mais parfois une fois par semaine. Pour moi aussi, ces réflexions-là, introspection, réflexion sur comment je suis, comment je me sens, mes frustrations, t'aident aussi à mieux comprendre comment tu peux bien t'entourer.
Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez « suis-je prêt à le faire? » Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, D-E-V le chiffre 2, CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours.
Dominique, j'aimerais ça qu'on termine sur un sujet qui est très d'actualité, mais vous avez réussi à en prendre un grand avantage dans votre organisation, l'intelligence artificielle. On parlait hors d'onde avant l'enregistrement du podcast que vous avez fait plusieurs projets pour tester l'intelligence artificielle puis essayer de vous propulser vers l'avant. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu c'est quoi ta vision, le chemin que vous avez parcouru puis où est-ce que vous en allez avec votre entreprise à ce niveau-là. Non?
Ouais, puis un des trucs, c'est qu'on a décidé de faire un balance. Tu vois, notre équipe de produits, souvent, ils sont beaucoup dans... Il y a des besoins actuels. Puis moi, je dis, il faut réussir à balancer la stabilité, donc ce qui est maintenance de la plateforme, les besoins actuels, donc le roadmap et c'est quoi le futur. Donc, c'est quoi qui les clients savent pas encore qu'ils ont besoin ou commencent à penser qu'ils en ont besoin, mais qu'ils ont 1000 autres choses qu'ils ont besoin, il faut quand même aller là-dessus. Donc, on a essayé aussi de plus en plus d'avoir un peu des trois. Puis évidemment, on est toujours à l'affût de c'est quoi le plus gros problème de nos clients. T'sais, moi, j'ai toujours dit, quand il y a un problème qui fait vraiment mal, c'est là que tu es vraiment prêt à payer. Au Québec, qu'est-ce qu'on a? Mais évidemment, à travers le monde, problème de main-d'œuvre. Donc, on dit, OK, il y a un problème de main-d'œuvre. On a lancé un produit l'année passée qui est des kiosques libre-service, où tu peux acheter tes billets, où tu peux scanner ton téléphone puis il te donne ton bracelet. Donc ça a fait un tabac, ça a super bien fonctionné parce que ça répondait à l'aspect « j'ai plus de staff ». Mais après, en creusant un peu plus avec des bonnes discussions avec des clients, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'un parc d'attractions ne sait généralement pas combien de gens ils vont avoir au parc plus que 24 heures d'avance. Parce que comment ça marche? Je regarde dehors, il fait beau, je vais au Super Aqua Club, OK. Je vais souvent même dans le temps, j'achetais mon billet, même pas en ligne, c'était 80% acheté sur place. Là, la pandémie a réveillé des nouveaux usages, donc la vente en ligne, la réservation de time slot, etc. Et en fait, en parlant avec nos clients, ils nous ont dit, ben, un des problèmes que j'ai, puis un parc aquatique qui est client chez nous dit, c'est je peux avoir dans une journée normale entre 800 personnes et 5000. Elle dit, j'ai toujours du staff pour 2500. Parce que tu peux plus appeler du staff dernière minute comme avant, puis tu peux plus non plus lui dire après 3 heures, hey, va-t'en, il n'y a pas assez de gens, parce que sinon, ils vont juste jamais revenir. Donc, elle dit, je staff pour ça. Il y a des journées où j'ai ben trop de staff, je perds de l'argent. Il y a des journées où j'ai pas assez de staff, l'expérience client est ultra mauvaise. Mais elle dit, je ne peux pas staffer, je ne sais pas. Et c'est là que j'ai dit, ouais, mais si on était capable de prédire, ben, ça se fait pas. C'est ça, vous allez entendre souvent ça se fait pas. C'est trop relié à météo, c'est trop... On fait, OK, ça se fait pas. Et c'est là que j'ai bien aimé ma rencontre avec une business que je fais un petit plug, Move AI, qui sont les premiers qui ont réussi à, pour moi, me présenter l'AI d'un point de vue business. Pas d'un point de vue, on va faire de la recherche expérimentale pendant 32 ans sur des concepts, un aspect très business, qui sont des anciens de GSoft, hein, beaucoup d'anciens de GSoft qui sont là-bas. Guillaume était un ancien de GSoft, Dominique Dany était le CEO de GSoft, qui est le président. Donc, beaucoup qui ont passé par cette excellente école-là. Et on a décidé de s'associer. En fait, ils sont rentrés, même en partie, dans le business pour développer cet outil-là qui s'appelle Predictor. Donc, Predictor vise à prédire combien de gens vont arriver. Aujourd'hui, on est capable de prédire à peu près 10 jours d'avance combien de gens vont venir. On voit des tendances lourdes, oui, reliées à la météo, mais aussi des tendances lourdes reliées au calendrier scolaire, aux vacances, à la journée de la semaine. Donc, on fait tout ce qui est la prédiction de l'achalandage, prédiction après ça du nombre de staff que tu aurais besoin, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est toute la portion revenu management, donc dynamic pricing. Parce qu'une fois que je suis capable de te dire combien de gens tu vas avoir, je suis capable de dire... Ben, tu vas avoir 6000 personnes, mais toi, tu as la capacité d'en avoir 4000 pour une belle expérience client. Donc là, on va augmenter les prix. Il y a aussi des journées sur lesquelles on va pousser les gens à réserver d'avance. Parce que ça, c'est l'autre problématique qu'on a découvert. C'est que ce qui va faire le plus combien de gens tu vas avoir, c'est combien de billets tu as vendus en pré-vente. Mais les gens n'achetaient pas en pré-vente avant. Donc là, on va pouvoir lancer des produits d'assurance. Donc, achète un billet 6 jours d'avant pour le parc aquatique. Tu sais pas la météo, mais paye 3 piastres de plus, puis je te le rembourse. si jamais il fait pas beau, puis tu vas payer beaucoup moins cher ton billet parce que tu as pris un risque d'affaires. Donc, ça amène des opportunités de services financiers. Ça amène des opportunités de jouer avec les prix, d'optimiser évidemment les revenus. Donc, on a travaillé ça un an. Ça coûte très cher, l'IA. Je vois beaucoup trop de gens qui font de l'IA parce qu'il y a des subs. Faut faire attention, là, vous allez jamais faire de l'argent avec des subs. La sub va peut-être vous aider à faire le projet, mais tu regardes, nous, on a eu peut-être 300 000 de subs sur ce projet-là. On était à un peu plus qu'1,5 million de dépensés. Donc, oui, ça aide, mais faut pas faire ces projets-là pour des subventions. Faut répondre à des vrais besoins d'affaires. Mais là, tu vois, ça arrive souvent que je me challenge sur le roadmap. Dernièrement, l'équipe de Customer Success disait, ouais, il y a aucun client qui nous a dit que c'était leur priorité. J'ai dit, je le sais, parce qu'ils ont plein d'autres priorités. Mais je sais que c'est là qu'il faut aller. C'est là qu'on va être différent. C'est là qu'on va créer aussi de la valeur pour les actionnaires. Donc, on lance cette plateforme-là cet été. Donc, déjà, elle a commencé à rouler. Elle fonctionne très, très bien. Précision autour de 80% sur l'achalandage. Et on est en train de faire un roll-out là, pour lancer tout ce qui est dynamic pricing. Qui font dans l'hospitalité? Moi, je copie l'hôtel. Tu sais, je t'ai dit, j'aime mieux copier les choses de faire mieux. Ce qu'on vit en ce moment dans les parcs des attractions, ça ressemble beaucoup au secteur de l'hôtellerie il y a 7-8 ans, avant que les Muse et les nouveaux joueurs un peu plus cool arrivent sur le marché.
Dominique, je me répète, là, mais ça me fascine de voir à la vitesse à laquelle vous bougez. Pour, de mon côté, je connais très bien le développement de produits puis la vitesse à laquelle ça prend de développer ces différents modules-là ou produits. Toi, tu trouves ça long. Je suis de la même logique que toi, qu'il faut que tout aille toujours plus vite. Mais vous semblez très, 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 très rapide pour amener ça au marché. Félicitations, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient s'inspirer un petit peu de la vélocité à laquelle que vous avancez. Et je pense que vos compétiteurs vont juste se rendront même pas compte que vous avez livré ça au marché puis il va être rendu trop tard pour eux. Là, c'est tellement de valeur potentielle pour vos clients d'être capable de justement jouer avec cette demande-là puis de vendre des produits connexes en termes d'assurance et compagnie. Là, c'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est un beau...
Une dernière petite anecdote là-dessus, tu sais, quand tu parles de nos compétiteurs, c'est des très, très gros joueurs. Puis on a reçu un appel il y a quelques mois du plus gros propriétaire de parc à thème aux États-Unis qui utilise un de nos compétiteurs. Il dit, on aimerait ça utiliser votre plateforme. On fait, c'est impossible. Tu sais, c'est genre, tu sais, le truc too big. Là, on dit, ah, je pense que vous êtes trop gros. Puis souvent dire non, hein, c'est une bonne chose. On dit, ah, vous êtes trop gros pour nous autres. Nous, on attaque le mid-market. Vous êtes pas notre type. Vous allez remplir mon roadmap puis vous allez me demander 1 million de features pour être capable de le faire. Fait que restez avec les vieux. Après 3 appels, on a livré 4 parcs pour eux. On risque de remplacer le Legacy. Pour donner grandeur d'idée, c'est un deal en 2024-2025 de 15 à 20 millions de revenus récurrents sur un contrat. Évidemment, ça va faire très, très mal aux joueurs Legacy. Puis nous, ce qu'on dit, on est à la chasse aux dinosaures. On s'amuse même à faire des campagnes de pub avec des dinosaures. Mais on est vraiment à la chasse aux dinosaures. Puis c'est ce qu'on veut faire, puis c'est ce qui m'excite. C'est de leur faire peur, mais faire plus que leur faire peur. C'est de m'assurer qu'on va les faire disparaître parce qu'ils ont mal servi le client depuis des années, se sont assis là-dessus. Puis je pense qu'il y a un moment en ce moment dans l'industrie où on a une belle opportunité de peut-être faire un peu c'est ce que Uber a fait à l'industrie du taxi, dire le monde des attractions a été mal servi pendant des années. Bon, on va venir changer cette game-là. Ça, c'est ce qui, moi, m'excite le plus. C'est d'être capable de déranger les dinosaures. Puis ce contrat-là est un bon exemple où on a commencé à déployer, mais que ça va nous amener autour de 25-30 millions possiblement de revenus dans simplement, là, on peut parler d'un an ou deux.
Et je sais que tu vois très grand, puis je suis un grand fervent de voir très grand, puis des fois que ça soit complètement out of the box, je te pose une question qui va peut-être déstabiliser bien des gens, puis qui va peut-être avoir l'air peut-être un peu cocky dans ta réponse, mais ces fameux dinosaures-là, là, est-ce que dans tes possibilités, ça serait peut-être un jour de les acheter, puis de les intégrer, puis après ça, de reprendre toute leur clientèle?
J'aime mieux les tuer. C'est méchant, mais en fait, c'est une discussion. Char de 30 rencontres avec des investisseurs, des private equity. Un private equity, là, c'est comme un investisseur sur les stéroïdes qui achète par contre la majorité pour qu'il y ait des très grands groupes. Il y en a plusieurs qui m'ont posé ta question. OK, pourquoi t'achètes pas tel joueur ou pourquoi on consolide pas le marché? Je dis, ouais, ce que tu vas acheter, c'est du legacy. T'sais, ce que t'achètes, c'est du vieux soft. Là, tu vas forcer le client à changer à toi. Fait que t'achètes en forçant les clients. J'aime bien mieux aller voir le client. Puis je pense que notre industrie, elle a besoin d'un bon produit. Elle n'a pas besoin de plus de marketing. Elle n'a pas besoin de plus de sales. Elle a besoin d'un bon produit. Par contre, est-ce que je suis en train de regarder des cibles d'acquisition? Définitivement. Mais ce sera pas des legacy que je vais acheter. C'est justement des nouvelles pièces de logiciels intéressantes qui sont basées sur des nouvelles technologies que je peux rajouter dans mon écosystème. Exemple, sur le data, il y a énormément de choses intéressantes. Et l'autre chose qu'on n'a pas parlé, on analyse de s'expandre dans d'autres verticales. L'industrie des spas est très, très proche des parcs aquatiques. Donc, c'est une industrie qu'on commence à regarder, l'industrie de l'hospitalité. Pourquoi on serait pas capable de rentrer dans un hôtel? Parce que de plus en plus de nos clients ont des parcs aquatiques au milieu d'hôtels. Donc, est-ce qu'on pourrait ajouter des pièces de logiciels autour de ça? Puis aussi le paiement, parce qu'on a notre TreeHag, qui est bien important pour moi. Moi, le BIAG, souvent, je trouve que c'est un peu trop loin. J'aime quand même les trucs qu'on peut faire. Ben, tu sais, nous, on veut faire 1 milliard en transactions en 2024. C'est demain, 2024. Donc, 1 milliard de transactions. Donc aussi, toute notre réflexion est combien on peut générer plus de volume transactionnel sur notre système de paiement pour l'amener à 1 milliard l'année prochaine. Puis on est déjà à 300 millions en ce moment. À la vitesse à laquelle on va, je pense qu'on à fin 2024, on va être proche du milliard. Mais pour moi, c'est devenu une obsession. Donc, ma stratégie est aussi beaucoup basée sur comment on est capable d'acquérir du footprint dans le paiement.
De 0 à 1 milliard de transactions en à peu près 3 ans, là, c'est ça la visée là, que vous avez en tête?
Peut-être 4 ans. 0 à 1. 4 ans.
Vraiment impressionnant, Dominique, de le voir aller. Puis c'est une des raisons pour lesquelles je suis content de t'interviewer aujourd'hui, parce que je pense que ça va inspirer beaucoup de gens. Tu sais, il y a des ups, il y a des downs, mais il y a moyen de se relever puis d'après ça, de courir encore plus vite au bout de la ligne. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais discuter ou apporter à l'auditoire aujourd'hui avant qu'on termine l'entrevue?
Ben, tu sais, je pense qu'on n'en parle pas assez. En ce moment, il y a énormément d'entrepreneurs qui souffrent. Fait que, tu sais, c'est quelque chose aussi. Prenez soin de votre santé mentale. Je pense que moi, si j'avais pas eu une psy, si j'avais pas eu ma famille, j'aurais chuté, puis chuté, tu sais, je fais partie des gens qui sont dans des extrêmes, ce qui veut dire que j'aurais pu chuter, tu sais, puis j'en vois, là, tu sais, moi, j'ai la chance aujourd'hui, puis c'est même des fois, je trouve ça un peu dur de parler de ce qu'on vit, parce que je vois plein de startups qui sont pas capables de lever, qui ont plus de cash, qui sont en train de souffrir. Il y a un programme qui s'appelle Persévérance entrepreneuriale, où je suis persévérant en chef avec des gens comme Matt Dutil de Canam. On est plusieurs où on aide des gens qui sont en ce moment peut-être près de la faillite, puis même à les aider à faire faillite, parce qu'un moment donné, quand t'es rendu là, des fois, c'est la décision qu'il faut prendre, mais il y a une façon de passer au travers. Donc, de dire, tu sais, faut pas penser, moi, ça a l'air tout beau, tu sais, je parle ça d'extérieur, wow, 0 à 1 milliard. En fait, je déteste ces histoires-là parce que, tu sais, malheureusement, 1h30, j'ai pas pu vous parler de toutes les fois où on a chuté, de toutes les fois où j'ai tout perdu. Mais, tu sais, tout ça, c'est énormément de travail, c'est beaucoup d'échecs que j'ai eu dans le passé, mais c'est aussi du timing. Tu sais, la réalité, j'ai été à la bonne place au bon moment. Parfois, c'est pas les gens qui sont pas bons, ils sont pas à la bonne place au bon moment. Fait qu'il faut juste pas penser que c'est la norme. Tu sais, de dire on lève des millions, puis on fait ci, puis on fait ça. Puis c'est correct de faire une business de service, c'est super. Surtout si vous êtes capable de la rendre profitable, puis lifestyle. Et c'est correct d'avoir un scale qui est plus lent. Mais le plus important, puis ça, c'est des choses que ça m'a pris bien du temps à découvrir, c'est l'importance de sa santé mentale et physique. On sacrifie comme entrepreneur tellement ces deux pièces-là trop souvent. Fait que je pense... T'sais, prenez soin de vous, puis si vous rushez en ce moment, je pensais qu'on était mort durant la pandémie. On a survécu une fois de plus. On a réussi à y aller. Des fois, c'est de prendre un peu de temps, prendre du recul, puis après ça, de se faire un plan d'attaque. Je pense que c'est quelque chose de bien important.
Et surtout de rien prendre pour acquis, t'sais, de profiter beaucoup du chemin et non de juste le but au bout de la ligne. Il faut avoir du plaisir en cours de route parce que la destination finale peut disparaître du jour au lendemain, puis il faut pivoter, là.
Ah, puis pivoter, le nom de ton podcast est bien fait là-dessus. Pour moi, des pivots, on en a fait au moins 20. T'sais, fait que je parle des gros, là, mais tu sais, des micro-pivots, des petits pivots, des pivots commerciaux, des pivots marketing, des pivots d'équipe. C'est la flexibilité, c'est l'adaptabilité qui est, je pense, quelque chose. Et c'est un des trucs qui fait que très peu d'ingénieurs deviennent entrepreneurs. J'enseigne l'entrepreneurship à l'ETS. Puis c'est souvent ce que je lui dis. Il y a deux raisons pourquoi souvent ils deviennent pas entrepreneurs. Le premier, ils font trop d'argent en sortant de l'école. Ce qui veut dire que c'est plus difficile de sacrifier. La deuxième chose, c'est que souvent, ils ont un peu de difficulté à cette adaptabilité-là parce que eux, c'est, il y a un plan, on va le suivre. Mais l'entrepreneuriat, là, c'est pour ça que souvent, il faut des duos ingénieurs et plus sales and marketing ou ce profil-là. C'est ce qui va faire des bonnes équipes. Ça revient à l'intégrateur puis le visionnaire. Tu as besoin des deux dans une business, mais il faut que tu aies du fun. Ça, je suis d'accord avec toi. Si on n'a pas de plaisir à le faire, si c'est que de la souffrance, trouvez d'autres choses. Il y a en masse de jobs aussi sur le marché, puis faut arrêter de dire qu'être entrepreneur, là, c'est comme c'est cool. Non, c'est pas cool d'être entrepreneur. Moi, je dis, il y a juste des gens fous qui le font. J'ai écrit un livre en ce moment qui s'appelle « Et si l'entrepreneuriat rendait fou? » Parce que je me questionne. Moi, je pense que en ce moment, c'est 50% des entrepreneurs souffriraient de santé mentale. Puis moi, je pense que l'autre 50% sont pas au courant. Et c'est juste s'ils ont pas été informés qu'eux autres aussi. Parce qu'il y a personne de sain d'esprit qui fait « Ah oh, ouais, il va me lancer en affaires, 80% de chances de faire faillite en dedans de 5 ans. » Ça fait du sens. Non, ça fait pas de sens. Fait que vous êtes pas obligé d'être entrepreneur non plus, puis c'est bien correct. Si vous voulez pas l'être, c'est pas facile, mais on peut bâtir des belles business au Québec avec des bonnes équipes.
Effectivement. Et dernier petit point avant la fin de cet épisode-là, comment l'auditoire d'aujourd'hui peut t'aider, Dominique? Est-ce que tu es à la recherche de staff? Est-ce qu'il y a un client que tu tentes de rentrer en quelque part, tu cherches un contact d'un contact? Comment qu'on peut t'aider aujourd'hui?
Bonne question, je dirais. Tu sais, d'un point de vue de la business, la bonne chose, c'est qu'on est au niveau staff, on n'a aucun roulement, fait qu'on est assez stable. On a toujours quelques postes. Je sais qu'en ce moment, support, customer success, on a quelques postes ouverts. Un des trucs qu'on a appris, c'est d'arrêter de flamber l'argent qu'on lève aussi, ce qui veut dire qu'on est très slow sur l'embauche. On embauche au compte-gouttes les bonnes personnes versus avant où on affichait 15-20 postes de la shot. Mais évidemment, regardez, on cherche toujours du talent. Ce qui veut dire qu'on embauche par contre très transparent que du senior. Très, très peu de gens qui vont faire en bas de 100 000 chez nous, puis ça monte vite. Ce qui veut dire qu'on veut des top guns parce que la vitesse à laquelle on va ne nous permet pas la patience, peut-être, qu'on devrait de former des gens puis peut-être d'être plus dans un process comme ça. Ça, c'est un des côtés. Niveau client, ça a l'air un peu utopique de dire comme ça, mais on est bien placé. Je pense qu'on parle aux bons joueurs dans l'industrie. On a réussi à bien se positionner. Après, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Vous pouvez me suivre sur les affaires. J'écris tous les jeudis un blog dans les affaires. Donc, c'est aussi possible de me suivre. Puis pour moi, c'est vraiment cet aspect entrepreneurial-là, un peu communauté, qui est super importante. Puis évidemment, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez besoin d'un coup de pouce. Je réponds vraiment généralement à tout le monde parce que j'ai compris à certains moments dans ma vie, c'est quoi de pas se faire répondre quand on a besoin d'aide. Fait que c'est quelque chose à laquelle j'essaie d'être assez présent dans l'écosystème.
Et si vous ne suivez pas déjà Dominique sur les affaires, je vous le recommande. Dominique est, je dirais, un des rares entrepreneurs au Québec qui parle des vraies choses puis qui a pas peur d'ouvrir la boîte à surprise puis de parler de secrets souvent qui sont cachés backstage. Fait que je vous invite fortement à aller lire ce qu'il écrit sur les affaires. C'est très pertinent et très inspirant. Dominique, un grand merci pour ton temps aujourd'hui. Très apprécié. Et pour tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt. Voici les 5 points que je retiens de ma discussion avec Dominique. Premièrement, quand tout le monde ralentit, donc par exemple comme dans une crise pendant la COVID, c'est souvent le meilleur moment pour accélérer, donc créer un double effort, aller chercher un peu plus de sous et vraiment d'aller plus rapidement que la compétition ou du moins continuer les efforts ou multiplier les efforts pour passer devant la compétition et du moins percer un marché. Deuxièmement, super important de faire attention à soi et à son mental en tant qu'entrepreneur. J'aimais bien quand Dominique disait que la majorité des entrepreneurs souffrent de problèmes mentaux. Il y en a la moitié qui le savent, l'autre moitié qui le savent juste pas encore. Donc, super important de prendre soin de soi. Ça me rejoint quand il parle d'avoir un psychologue en continu qui nous suit. Donc voilà, j'espère que les entrepreneurs qui nous écoutent et les leaders d'entreprise prennent du temps pour eux, prennent du temps pour se ressourcer et justement d'entretenir leur mental dans la meilleure des directions possibles. Troisièmement, bien se balancer avec un partenaire. Donc, c'est important si on est un visionnaire d'avoir quelqu'un à ses côtés qui est intégrateur, qui est une complémentarité de soi-même. On peut pas être bon dans tout. Faut connaître ses forces, faut connaître ses super pouvoirs et s'entourer de gens qui vont venir faire une complémentarité de tout ça. Donc, le livre Rocket Fuel est un livre qui, je pense, qui va être très intéressant, du moins de mon côté à lire. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande également de la même manière que Dominique nous le recommande. Quatrièmement, s'il y a moyen de processer les paiements de notre côté en tant que startup, ne négligez pas cette partie-là en termes de capacité de génération de revenus. Donc, validez si vous êtes capable de processer les paiements. Il y a peut-être beaucoup d'argent que vous laissez sur la table. Ça fera l'objet également d'un futur épisode avec les gens chez Connect & Go. Donc, ne négligez pas cet aspect-là. Et dernier point, je pense qui est le plus important, la qualité des revenus est vraiment, vraiment, vraiment importante. C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que nos revenus sont de qualité? Donc, si ce n'est pas des revenus récurrents, ce n'est pas des revenus de qualité. Donc, merci à tous encore une fois d'être des nôtres chaque semaine. Vous êtes plusieurs à nous écouter. Vous êtes très nombreux et c'est très apprécié. Nous produisons ce contenu gratuitement pour vous. Donc, notre récompense est votre partage ou votre abonnement au podcast. Donc, en ce sens, si cet épisode de podcast vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour le partager ou pour vous abonner. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. J'ai la chance de discuter avec plusieurs d'entre vous chaque semaine. Et encore une fois, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. À la semaine prochaine.